C'est l'heure de Gardarem la Terre, une émission produite par Radio Albitzes et diffusée sur Radio Albitzes et Erdotam. Enrobage ou enfumage.
Ah, si tout le monde peut prendre place, s'il vous plaît.
Épisode 3.
On va essayer de commencer à peu près à l'heure. À peu près.
C'est sur l'invitation de l'association Au service du vivant et dans une salle comble que s'est tenue le samedi 20 janvier 2024, au matin, à Montredon-l'Abessonnier, une réunion d'information au sujet du projet d'implantation d'une nouvelle centrale d'enrobage à chaud sur le territoire de la commune.
Voilà, tout le monde a trouvé une place assise. Il semble pas encore.
Mais il était aussi et surtout question de la présentation des premières campagnes d'études concernant l'impact de la centrale d'enrobage à chaud déjà présente à la FENAS sur l'environnement. Ces campagnes financées grâce aux dons des citoyens à l'association Au service du vivant ont été menées sous l'égide de scientifiques et de l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions à Fort-sur-Mer. Elles permettent d'établir une cartographie des zones les plus affectées par les retombées d'hydrocarbures aromatiques polycycliques émanant de la centrale, molécules reconnues comme cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, chronique d'une expertise citoyenne et d'une démarche collective.
Voilà, cette matinée où on va essayer un petit peu et de vous présenter les choses et de partager avec vous, puisqu'il y aura un temps enfin de questions. Voilà, nous aurons Vanessa qui va nous parler des problématiques.
Oui, bonjour, Vanessa Léa. Je suis chargée de recherche au CNRS Écologie Environnement et ma fille est à l'école de la FNAS.
Donc pourquoi est-ce que nous, on a voulu faire des analyses? Eh bien, pour moi, ça tient tout simplement en une phrase. C'est à l'heure où justement est envisagée l'installation d'une nouvelle centrale d'enrobage à chaud, donc cette fois-ci sur la commune de Montredon-l'Abessonnier, qui engagerait donc de nouveau le territoire sur plusieurs décennies.
Vous êtes du coup engagée depuis le tout départ du collectif?
Quasiment, ça fait presque 2 ans maintenant, oui.
Comment vous l'avez abordé ce dossier depuis 2 ans et comment vous en êtes arrivé à avoir ce discours assez clair?
D'abord, je vous remercie du compliment. Parce que c'est quand même beaucoup de travail, c'est pas facile. Je suis pas moi-même spécialiste des HAP. En revanche, de par mon réseau professionnel, il a été possible de faire appel en fait à des professionnels, justement donc de HAP, notamment l'Institut éco-citoyen pour la connaissance de la pollution, qui est situé à Fos-sur-Mer et qui nous a conseillé en fait depuis le départ, des naturalistes aussi, puisque nous avons fait des analyses sur les lichens. Je crois qu'on a su s'entourer des bons spécialistes. Et puis nous avons aussi tout simplement construit ces premières analyses avec les riverains de la centrale qui subissent les nuisances quasiment au quotidien, donc pour la centrale de la FNAS.
Du coup, c'est une démarche d'expertise citoyenne, c'est ça?
C'est exactement ça. Et c'est aussi dans cet esprit-là que l'on va continuer à faire les analyses en 2024 et en 2025.
Et des indications donc sur les futurs lieux d'analyse à privilégier, et ça c'est ce que nous cherchons. Enfin, un aspect extrêmement important pour moi, pour le collectif en général, c'est la forte correspondance avec le ressenti des riverains de la centrale qui se plaignent d'odeurs, qui parfois lorsqu'il y a eu des incidents, notamment ces 2 dernières années, se plaignent d'avoir mal à la gorge, de ressentir des picotements, certains ont pu avoir des malaises, mal de tête, des nausées, enfin des choses absolument caractéristiques des émanations de ce type de centrale. Et donc là, on a une cartographie qui correspond aussi à ce ressenti des riverains. Et ça, c'est extrêmement intéressant et je vais vous présenter, mais c'est un aspect que l'on a envie de développer aussi à l'avenir dans les futures analyses. Ça nous intéresse pourquoi? Parce que malgré les plaintes des riverains de la centrale, nous aussi on a une autre paquet de journaux, je remercie les journalistes qui ont relayé d'ailleurs à chaque fois des informations concernant la centrale d'enrobage à chaud, et bien on n'est pas toujours pris au sérieux en fait. Voilà. Et il peut y avoir une attitude un petit peu de mise à distance, parfois, même de l'ADREAL, à laquelle on peut envoyer des fiches de réclamation. Donc là, bah, y a des données scientifiques qui permettent d'étayer le ressenti des citoyens, et ça me semble extrêmement important.
Faire collectif sur un territoire, ça peut sembler évident quand on fait face à un danger local. Et pourtant, rien n'est moins vrai. Selon le degré d'information qu'on a de ce danger, le déni qu'on peut y opposer, comme pour ne pas faire face à l'impensable, les intérêts qu'on peut y avoir, par exemple, pour une mairie rurale, dont une partie du budget peut dépendre d'un financeur extérieur pour qui ce même danger est relatif. Selon tous ces critères et d'autres encore, comme la peur panique ou encore la jalousie, il n'est pas évident de réunir des personnes autour d'un projet et d'en discuter sereinement. C'est pourtant la base de l'exercice démocratique, confronter ses idées plutôt que de confronter les corps.
Oui, bonjour, je m'appelle Guillaume Rosenberg, j'habite sur la commune de Terre de Bancalier et je suis membre du collectif Stop Enrobé 81.
On parle donc sur un territoire rural. Tout le monde se connaît ou peut être amené à se connaître. Comment vous avez envisagé aussi le fait de parler aux gens sans qu'ils s'entretuent? Parce que ça peut être compliqué, des débats comme ça dans des campagnes.
Oui, effectivement, hein, c'est un sujet assez passionnel. Voilà, ça suscite aussi parfois certaines craintes quand un collectif se met en place. Voilà. Il se trouve que nous, on a toujours choisi la modération, la discussion, le débat. Et peu à peu, au fil des 2 années, donc depuis que le collectif est créé, nous avons su créer au moins un espace, en tout cas un espace de dialogue à peu près serein avec l'ensemble des personnes, y compris celles qui ne sont pas de notre avis. Elles savent qu'elles peuvent argumenter avec nous, discuter, etc. Et donc c'est effectivement beaucoup d'interconnaissance, hein, dans ce milieu, et en même temps les gens, ça favorise aussi d'un certain point de vue l'écoute, puisque les gens se connaissent préalablement et n'ont pas envie précisément de s'entretuer, quoi. Donc on a réussi à créer tout un débat critique autour de cette installation. Et aujourd'hui, les gens sont très informés, très sensibilisés et réagissent avec une véritable acuité, hein, à la fois au fonctionnement de la centrale actuelle et puis au projet de nouvelle centrale qui viendrait en remplacement.
Moi, je voulais qu'on s'interroge tous en tant que citoyens de ce lieu de vie sur le consortium qui gère la centrale d'Enrobé, hein, parce qu'il faut savoir que Tarn-Enrobé, c'est un nom, mais derrière ce nom-là, eh ben, on a Eurovia, on a Eiffage et on a SPI, qui sont des grosses, pas multinationales, mais enfin en tout cas des très très géants de l'Europe, en fait, des géants européens. Et c'est ce groupe qui gère la centrale de Montredon-la-Bessonnier. Tarn-Enrobé, c'est un joli petit nom local, mais derrière ça, il y a ce groupe-là, il faut le savoir. Donc, moi, je me suis posé la question et je voudrais qu'on se la pose ensemble. Pouvons-nous faire confiance à ce groupe pour prendre en compte tout ce qui doit être pris en compte pour la sauvegarde de notre santé et de notre environnement? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a eu une inspection officielle en mars 2023 qui a révélé que l'exploitant polluait le Dadou depuis plusieurs années, en toute connaissance de cause. Alors, si vous voulez plus de détails, il y aura des personnes pour répondre à vos questions, mais il faut savoir que du coup, il y a une association qui est agréée pour la protection de l'environnement, que nous avons sollicitée, et qui a mis en place une action en justice. Alors, pour le moment, ça a été repoussé. Normalement, ça devait se faire le 9 janvier devant le tribunal. Tarn-Enrobé, enfin en tout cas les avocats, puisqu'ils ont pris un avocat des avocats de Paris qui sont un des plus grands cabinets d'avocats de France, hein, qui coûtent très cher. Là, ils avaient les moyens pour ça. Et du coup, ils ont demandé à ce que la date du jugement soit repoussée pour pouvoir peaufiner leur dossier. D'autre part, depuis 2 ans, les incidents de fonctionnement se succèdent. Donc ça, on a tous été témoins ponctuellement d'émanations importantes de fumée et d'odeur sur les routes en allant au marché le matin. On a tous été témoins de ça. Hein. Donc ces incidents sont source d'épisodes de pollution et de nuisances importantes qui ont touché tous les environs de la centrale. Donc alors même que certains de ces incidents s'expliquaient facilement. Par exemple, de mars à juin 2022, il faut savoir que c'était simplement des filtres défectueux. mais ils n'ont pas changé les filtres. Le groupe a laissé fonctionner la centrale en l'état pendant plusieurs mois. Et ce sont des fumées épaisses qui ont recouvert la fenasse et l'odeur infecte qui s'est répandue. Et ils n'avaient pas de filtre. Ils ont de l'argent pour les avocats, mais pour les filtres, il n'y avait pas. Voilà. Bon, moi, je m'interroge. Hein, je ne suis pas là, je ne viens pas en juge. Je m'interroge et je pose des faits. Ce sont des faits. Ils sont avérés. D'autres épisodes d'émanation importants de fumée et d'odeur qui ont duré des semaines ou des quelques jours. Parfois, c'était juste sur un week-end, sur une journée ou pendant une semaine. Et bien là, on n'a pas eu d'explication. L'exploitant n'a pas voulu...
Alors, je vais poser une question un peu saugrenue, mais pour dissiper tout doute de gens qui pourraient nous écouter. Le collectif, c'est des bénévoles. Vous autofinancez vos études, tout ça, et vous n'avez pas de subvention de nulle part.
Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Effectivement, les résultats des analyses que j'ai présentées tout à l'heure ont été financés par des citoyens et strictement par des citoyens. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de solliciter que ce soit l'aide des élus, de l'ADREAL, de l'exploitant lui-même, hein, donc Tarn-en-Robé, puisque pour nous, il était absolument évident qu'il fallait mesurer l'impact de la centrale qu'il a depuis 35 ans avant d'envisager l'installation d'une nouvelle centrale qui, de toute façon, engagerait le territoire sur plusieurs décennies. Donc nous avons essayé effectivement d'impliquer un petit peu l'exploitant dans cette démarche-là. Toutes nos démarches sont en fait restées sans réponse. Donc pour ce qui est d'aujourd'hui, les analyses effectuées ont intégralement été financées effectivement par des citoyens, des riverains, pas que des membres du collectif, hein, mais aussi des riverains ou des sympathisants de la cause. Il n'en sera sans doute pas de même pour la suite, puisqu'en fait nous allons développer des programmes de recherche justement pour avoir d'autres types de financement, pour aller plus loin et affiner les premiers résultats que nous avons obtenus.
Nous étions des humains, des vivants de demain, partis pour un très long chemin. Nous avions des bâtons, de la boue sur les mains, on suivait les étoiles et c'était bien. Quand le jour se levait, on lui disait merci. Merci d'être repassé par ici. Quand nos yeux se fermaient sur un dernier soupir, on n'avait pas l'impression de mourir. Sous la peau, de la chair et des os, que nous avions du mal à protéger. Là-haut sur la falaise, les vautours attendaient, c'était chacun son tour, rien n'a changé. Notre histoire est si belle, et le monde est si beau. Essayons de faire voler nos vélos. L'aventure est si courte et le ciel est si grand. Essayons de bien prendre notre élan.
temps qu'il y ait des aménagements techniques, un petit complément par rapport aux histoires de seuils et de normes. Il faut quand même qu'on sache que les seuils et les normes sont le résultat de négociations entre la puissance publique, l'État, et les acteurs économiques du secteur. Et ce n'est jamais le résultat de données scientifiques précises et définies. C'est toujours une histoire de négociation entre l'État et les acteurs économiques.
On est toujours à Montredon-l'Abbé-Saunier le samedi 20 janvier 2024 lors d'une réunion d'information au sujet du projet d'implantation d'une nouvelle centrale d'enrobage à chaud sur le territoire de la commune. Ce jour-là, plusieurs collectifs sont présents puisque depuis quelques mois, les projets de centrales d'enrobés à chaud poussent comme des champignons dans le Tarn.
Dans les dialogues et les alliés, là aujourd'hui il y a plusieurs représentants de plusieurs autres collectifs, puisqu'on a vu que ça a poussé un peu partout dans le Tarn et j'imagine ailleurs aussi, autour de projets d'usines d'enrobés. Comment s'est fait ce dialogue et comment ça se fait au jour le jour, la stratégie à plusieurs?
Alors au départ, donc, il n'y avait que, entre guillemets, la centrale de la FNAS qui existait, puis s'est monté un projet à Montance, dans le Tarn, hein, qui a donné naissance à un collectif, le collectif Nobitume de Montance. Et puis, il y a aujourd'hui en projet les deux centrales d'enrobage à chaud pour l'autoroute A69. Et là, ce ne sont pas moins de 10 collectifs hein, qui ont été créés aux alentours de ces deux centrales. Et ces différents collectifs ont choisi de collaborer et de dialoguer pour mettre en commun un certain nombre d'informations. En fonction de leurs expériences propres, de leurs besoins, de leurs compétences. Il y a donc une sorte d'intercollectif, une sorte de coordination hein, qui s'est mise en place. Chaque collectif demeure autonome et en même temps, des actions vont être décidées à l'échelle commune des 12 collectifs existants aujourd'hui dans le Tarn et qui sont mobilisés contre des projets de centrales d'enrobage à chaud.
Est-ce que c'est une façon de faire intelligence collective aussi pour aller chercher de l'information et trier cette information? Parce que j'imagine que quand on rentre dans ces sujets-là, techniques, etc., on a de tout.
Effectivement, on en sait quelque chose. On s'épuise vite hein, à essayer de comprendre à la fois techniquement comment ça fonctionne, mais aussi d'un point de vue réglementaire. Et du coup, y en a certaines personnes dans certains collectifs qui sont plutôt spécialisées dans le côté réglementaire, d'autres dans le côté technique, etc. Donc tout ça fait des compléments et on s'appuie un peu effectivement sur les autres collectifs pour bâtir une expérience commune. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, pour cette réunion, vous avez vu, il y avait un certain nombre de membres d'autres collectifs qui étaient très à l'écoute, notamment des résultats et des modalités des prélèvements que nous avons fait aux alentours de la centrale, de ces fameuses analyses, parce qu'ils voulaient savoir eux aussi comment procéder pour la suite. Voilà. Donc les différents collectifs se nourrissent les uns les autres, tout en étant encore une fois parfaitement indépendants les uns des autres.
Bonjour. Je me présente, je fais partie du collectif de Florence en bitume. J'ai réuni autour de moi un certain nombre de scientifiques, des doctorants, des gens qui ont fait du post-doc, spécialistes de la pollution atmosphérique, une personne qui travaille au CNRS génie chimique. Donc on a un groupe vraiment très pointu au niveau scientifique. Je voudrais apporter juste quelques précisions. Bravo pour tout ce que j'ai entendu. Vraiment, c'est formidable. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais parler des filtres à manches, d'abord, parce qu'il n'en a pas été question sur le fonctionnement de la centrale. Nous, c'est ce qu'on nous raconte à Puy-Laurent, en tout cas, et à Villeneuve-les-Lavaur. C'est-à-dire que, vous inquiétez pas, il y a des filtres à manches, donc on filtre, et finalement, au bout du compte, on a beaucoup de vapeur d'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les filtres à manches installés, alors filtrent les poussières, c'est-à-dire au niveau de la taille des molécules, si vous voulez, tout ce dont on a parlé tout à l'heure passe à travers les filtres à manches, évidemment, puisqu'ils sont sur des molécules, donc ils sont beaucoup plus petites que ce qui peut être retenu par les filtres à manches, qui sont même pas des... Excusez-moi, j'ai oublié le nom. Donc, il parle de poussière et non pas de particules fines. Voilà. Ils ne filtrent même pas les particules fines. Alors, il y a un problème par rapport au filtre à manche, qui est un problème d'entretien. C'est exactement ce qui s'est passé à Gragnac. C'est-à-dire que des filtres à manche, imaginez votre manche, qui est, au lieu d'être percée pour laisser passer votre main, elle est fermée. Et donc là, s'il y en a une ou deux ou cinq qui sont abîmées, percées, ou elles sont colmatées, il n'y a plus aucune efficacité des filtres à manche. Ce qui veut dire que c'est ce qui s'est passé à Gragnac, c'est ce qui s'est passé dans d'autres cas quand on regarde les perturbations qu'il y a eu, les accidents industriels sur une dizaine d'années. Et là, c'est ce qui amène finalement ce que les gouttelettes de goudron, ou de bitume plutôt, à Gragnac, on peut être remarqué sur les voitures, c'est parce que les filtres à manche étaient, il y en a 1000, hein, il faut dire, hein, dans une soufflerie, il n'y a même pas de mesure de pression, il n'y a même pas, pour les scientifiques qui sont là, un delta P installé pour vérifier qu'il n'y a pas de manche percée. Donc tout s'en va dans la nature, et donc là on retrouve effectivement à proximité de la centrale des gouttelettes de goudron. Voilà, je suis très content de vous être venu, je suis très content de vous avoir rencontré, je vous remercie.
Merci de votre intervention, on va essayer de... On est surtout là aussi pour les habitants de notre secteur.
Donc là pour 2024, on peut citer un peu ce qui va... Il va continuer à y avoir des réunions publiques, des échanges entre collectifs, quelles sont les actions, les études et les analyses prévues?
Alors, il va y avoir effectivement de plus en plus d'interactions entre les différents collectifs. Il y a différentes commissions qui ont été créées justement pour développer ce lien entre les différents collectifs, voilà, selon différentes thématiques, qui concernent aussi d'ailleurs pour certaines d'entre elles les analyses que l'on peut faire. Néanmoins, chaque collectif garde aussi son indépendance, puisque le contexte à chaque fois est différent, le contexte politique, social. Nous sommes la seule centrale, j'allais dire, qui est là depuis longtemps aussi. Voilà, nous avons le seul territoire, malheureusement, hein, c'est un triste trophée, mais voilà, qui est implanté depuis longtemps. Donc oui, chaque collectif va garder son activité propre et en même temps donc développer des actions en lien avec les autres collectifs. Pour ce qui est des analyses, on a déjà un programme donc sur 2 ans à peu près, où l'on va affiner un petit peu ce que l'on a fait déjà sur les lichens, pour avoir une meilleure cartographie encore des zones qui sont impactées par les émanations de la centrale de la FNAS. Et puis on va surtout développer un nouveau programme de sciences participatives qui concerne les légumes feuilles, donc ils sont issus qui sont produits, hein, dans les potagers de chacun des riverains de la centrale, puisqu'on a aujourd'hui, on bénéficie de techniques qui nous permettent en fait de mesurer des taux de HAP dans les légumes feuilles, en complément donc d'analyse de sol. Et ces techniques sont extrêmement intéressantes parce qu'elles se réfèrent, elles, à des seuils alimentaires, en fait, qui sont, eux, réglementaires. Donc ça va pouvoir permettre de compléter déjà les premières analyses que nous avons obtenues.
Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que nous, nos routes ici, ben, il n'y en a pratiquement aucune, hein, sur Montredon-la-Bessonnière, qu'elle soit communale ou départementale. Ce que nous utilisons le plus ici, hormis les 3 km qui correspondent à la route qui va aux carrières et donc à l'usine d'enrobé, on n'a aucune route qui est en enrobé à chaud. On a des routes en tricouche, des trucs comme ça. Voire parfois, elles sont recouvertes avec des coulis sur les routes principales, le réseau 2 qu'on peut avoir ici. Et hormis les jonctions, par exemple, Alpicastre, les plus grandes jonctions de interfiles sont faites en enrobé à chaud pour faciliter le roulement. Mais nous, ici, on n'en a pas. Nous, on a des routes, vous voyez l'état de nos routes, c'est quasiment lamentable. Et on nous demande de supporter, en fin de compte, une usine qui va produire un élément, soi-disant, pour nous faciliter le roulage, qui ne sera jamais utilisé chez nous. Et là, on est bien face à un mensonge. Et n'oublions pas que le consortium des 3 qui compose Tarn-Orbé nous avait dit que c'était très intéressant justement d'avoir une nouvelle centrale à Montredon-la-Bessonnière parce qu'elle allait pouvoir arroser tout le département. Et force est de constater quand même que depuis qu'ils ont décidé de faire celle de Montredon-la-Bessonnière, il y a des champignons qui poussent partout. Donc leurs arguments, comme toujours, sont des mensonges.
d'autres questions ?
Merci au collectif Stop Enrobé 81, merci à l'association Au Service du Vivant. Retrouvez pas mal d'informations sur le site stopenrobé81.fr et retrouvez les autres collectifs dans le Tarn comme l'Auragais sans bitume, Nobitume à Montance ou encore Puy-Laurent sans bitume. A noter qu'un ciné-débat est proposé le mercredi 21 février prochain au banc sonore Arabastens à 20h autour du reportage Bitume, la part d'ombre. Notez bien donc le 21 février à 20h à Rabastens, 22 promenade d'Hélice, ce ciné-débat au banc sonore. À suivre. C'était Gardarem la Terre, une émission produite par Radio Albitzès et diffusée sur Radio Albitzès et Air d'Otan.